Le chemin montait toujours et nous approchions d'Épinède. À gauche, le coteau descendait par d'étroites terrasses jusqu'au fond d'un vallon verdoyant. Le paysan disait à mon père, « Celui-là aussi, le donnons. » On lui dit « Le Vala ou bien le ruisseau ?»« Oh oh !» dit mon père charmé, « Il y a un ruisseau ?»« Bien sûr !» dit le paysan, « Et un bon ruisseau !» Mon père se tourna vers nous, « Mes enfants, au fond du vallon, il y a un ruisseau !» Le paysan se tourna à son tour et ajouta, « Quand il pleut, bien entendu !» Les terrasses de ce Vala étaient couvertes d'oliviers à 4 ou 5 troncs plantés en rond. Ces troncs se penchaient un peu en arrière pour avoir la place d'épanouir leur feuillage qui formait un seul bouquet. Il y avait aussi des amandiers d'un vert tendre et des abricotiers luisants. Je ne savais pas les noms de ces arbres, mais je les aimais aussitôt. Entre eux, la terre était inculte et couverte d'une herbe jaune et brune dont le paysan nous apprit que c'était de la baouque. On aurait dit du foin séché, mais c'est là son teint naturel. Au printemps, pour participer à l'allégresse générale, elle fait un effort et verdit faiblement. Mais malgré cette pauvre mine, elle est vivace et vigoureuse comme toutes les plantes qui ne servent à rien. C'est là que je vis pour la première fois des touffes d'un vert sombre qui émergeaient de cette bauque et qui figuraient des oliviers en miniature. Je quittai le chemin, je courus toucher leurs petites feuilles. Un parfum puissant s'éleva comme un nuage et m'enveloppa tout entier. C'était une odeur inconnue, une odeur sombre et soutenue qui s'épanouit dans ma tête et pénétra jusqu'à mon cœur. C'était le thym qui pousse au gravier des garrigues. Ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre pour annoncer au petit écolier le parfum futur de Virgile. Je cueillis un bouquet de brindilles et je rejoignis la charrette en les tenant sous mes narines. « Qu'est-ce que c'est ?» dit ma mère. Elle les prit, respira profondément. « C'est du thym frais, » dit-elle. « On fera des civets merveilleux. » « Du thym, » dit François avec un certain mépris. « Il vaut bien mieux le pèbre d'ail. »« Qu'est-ce que c'est ?» C'est comme une espèce de thym et en même temps c'est une espèce de menthe qui tire un petit peu du côté du romarin et en même temps, mais ça ne peut pas se dire, je vous en ferai voir. Il parla ensuite de la marjolaine, du basilic, de la sauge, du fenouil. Il fallait embourrer le ventre de la lièvre ou bien le hacher fin avec un gros bout de lard gras. Ma mère écoutait très intéressée. Moi je flairais les brindilles sacrées et j'avais honte. Le chemin montait toujours, franchissant de temps à autre un petit plateau. En regardant en arrière, on voyait la longue vallée de l'Uvonne sous une traînée vaporeuse qui allait jusqu'à la mer brillante. Paul trottait de tous côtés. Il frappait avec une pierre sur le tronc des amandiers et des volées de cigales fuyaient, vibrantes d'indignation. Il y eut une dernière côte, aussi rude que la première. Grâce à une volée de coups de trique, le mulet, sous un dos en art de cercle qui se détendait brusquement, et hochant la tête à chaque coup de collier, tira par saccade la brinque-ballante charrette, dont le chargement, balancé comme la tige d'un métronome, brisait au passage des branches d'olivier. Mais il s'en trouva une plus forte que le pied de la table, qui tomba sur la tête résonnante de mon père stupéfait. Tandis que ma mère tâchait de conjurer la montée d'une bosse, en pressant sur l'échymose une pièce de 2 sous, le petit Paul dansait en riant aux éclats. Pour moi, je ramassai le pied coupable, et je constatais avec plaisir que sa longue rupture en biseau promettait une réparation facile. À mon père qui faisait la grimace sous la pressante effigie de Napoléon III, je courus porter cette consolation. Nous rejoignîmes l'équipage arrêté dans un bosquet en haut de la côte pour laisser souffler le mulet martyrisé. Il soufflait en effet à grand bruit, élargissant ses côtes maigres qui avaient l'air de cerceaux dans un sac, et des fils de bave transparentes pendaient de sa longue babine de caoutchouc. Alors mon père nous montra de la main gauche, car il frottait toujours son crâne endolori, une petite maison sur le coteau d'en face, à demi cachée par un grand figuier. « Voilà, dit-il, voilà la Bastide neuve, voilà l'asile des vacances, le jardin qui est à gauche est aussi à nous. » Ce jardin entouré d'un grillage avait au moins 100 mètres de large. Je ne pus y distinguer rien d'autre qu'une petite forêt d'oliviers et d'amandiers qui mariaient leurs branches folles au-dessus de broussailles enchevêtrées. Mais cette forêt vierge en miniature, je l'avais vue dans tous mes rêves et je m'élançais en criant de bonheur.